RFI.
Alors, on dit quoi ?
Bonjour, c'est RFI, c'est Alors on dit quoi ? Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, la parole est aux jeunes qui vivent au jour le jour avec une maladie chronique grave. Après l'annonce du diagnostic, s'ensuit une succession d'événements avec lesquels le jeune patient doit désormais composer. Il faut se familiariser avec la maladie, en parler à son entourage, introduire des traitements, s'habituer psychologiquement à son statut. C'est toute une vie qui doit être réorganisée autour de la pathologie et qu'il doit apprivoiser. C'est donc un quotidien qui n'est pas toujours facile entre sentiments de gêne, de ne pas vivre comme les autres, de l'angoisse ou encore de la peur face à la maladie, mais aussi face au jugement. Mon quotidien face à la maladie, c'est tout de suite dans Alors on dit quoi ? C'est parti.
Alors on dit quoi ? Avec Djaran Ndiaye.
Et qui de mieux pour en parler que des personnes directement concernées, à l'instar d'Antoinette Onomo. Elle est atteinte de drépanocytose et utilisatrice de l'application DrépaCare. Elle nous expliquera bien sûr de quoi il s'agit. Bonjour Antoinette.
Bonjour Tiara.
Également en ligne avec nous depuis l'île d'Abo, près de Lyon, en France, Andrea Mestre. Elle est blogueuse et militante contre le VIH-Sida. Bonjour à vous Andrea.
Bonjour Diara, comment allez-vous ?
Ça va très bien, merci, merci beaucoup. Bravo d'ailleurs les filles pour votre courage. Hein. Nous manquons souvent de témoignages de gens qui vivent avec le VIH-Sida ou alors avec la drépanocytose ou d'autres maladies. Et c'est très difficile de s'ouvrir, je pense, sur ces thématiques tabous. Alors sincèrement, on vous remercie vraiment. Andrea, nous sommes d'ailleurs le 4 décembre. Tous les ans, le 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Étant séropositive, vous sensibilisez activement sur les réseaux sociaux, bien au-delà d'ailleurs de cette mobilisation mondiale contre le VIH-Sida. Vous contribuez à libérer la parole autour de cette pathologie. Expliquez-nous pourquoi c'est important pour vous, Andrea.
C'est très important pour moi de libérer la parole sur le VIH-Sida parce que j'ai vécu pendant des années, je dirais 6 ans et demi, dans le secret, où je devais me cacher. Je me sentais différente des autres. C'était comme si j'avais fait du mal à quelqu'un, il y avait un poids que je portais. Et j'ai compris qu'il fallait, en fait, que je sois libre. Que je sois libre parce que le VIH-Sida ne me définit pas. Et il y a énormément de personnes qui sont séropositives sur cette terre, qui vivent la même chose en fait que moi. Et je me suis dit, bah, c'est le moment en fait de libérer aussi d'autres personnes du poids de la stigmatisation. Aujourd'hui, on vit normalement avec le virus du VIH, qu'on est sous traitement. On a une espérance de vie similaire à celle d'une personne séronégative. On peut faire des enfants, on peut travailler, on peut voyager, on peut faire tout ce qu'on veut. Pourquoi on s'interdirait de vivre ? Pourquoi on vivrait différemment ? Parce que les gens ont une opinion erronée des personnes séropositives.
Très important de le souligner, voilà. Andrea. D'ailleurs, votre quotidien de femme séropositive et de mère de 3 enfants est raconté sur la toile. Qu'est-ce qui a manifesté ce besoin de partager ? Là, vous nous avez expliqué qu'effectivement, il y avait besoin d'être libre, mais qu'est-ce qui a manifesté ce besoin de partager après 6 ans de silence ?
Bah, déjà, parce que on m'avait dit que je n'allais pas pouvoir avoir d'enfant parce que personne n'allait vouloir de moi. Personne n'allait accepter de faire un enfant avec une femme séropositive. Et j'ai réussi à construire une famille, à faire des enfants. Il était nécessaire pour moi de dire au monde qu'une femme séropositive peut mettre au monde un enfant séronégatif. Et pour encourager toutes les femmes justement séropositives de ne pas s'interdire ce désir de maternité que souvent elle renonce au fait à cause du risque de transmission qu'elle pense au fait qu'il y a au fait finalement.
On reviendra en détail justement sur cette aventure, cette magnifique aventure de devenir mère. Juste avant peut-être Antoinette, vous, la journée mondiale de la drépanocytose, cette maladie rare et génétique, elle affecte d'ailleurs 20 000 personnes en France et 5 millions dans le monde. J'ai vu ça d'après les chiffres de l'OMS. Et cette journée, elle est célébrée le 19 juin. Et vous, tout comme Andrea, vous sensibilisez autour de cette maladie, une sensibilisation quotidienne, notamment à travers les réseaux sociaux ?
Effectivement, depuis 2013, par un besoin qui était propre à ma situation, j'ai décidé de m'ouvrir et de communiquer sur la drépanocytose en créant une page Facebook, là où je racontais en fait mon histoire comme un livre ouvert depuis que voilà.
Depuis le diagnostic de cette maladie, à vos 4 ans, c'était bien cela ?
Depuis le diagnostic à mes 4 ans, tout à fait. Donc, j'y raconte sous une forme de chronique des bouts de vie où beaucoup de patients de drépanocytaire se sont vus, ont eu l'impression qu'en fait, les mots que j'avais, c'était exactement leur vie. Il y a aussi beaucoup de parents d'enfants de drépanocytaire en bas âge qui étaient un peu perdus par rapport à la maladie, que cela a aidé. Et voilà, c'était des échanges constructifs de jour en jour et beaucoup de bienveillance envers cette communauté Facebook qui a fait que grandir. Et après, on est passé à la mode un petit peu d'Instagram, oui. Pour pouvoir aussi
toucher davantage,
être au plus proche des patients, de ceux qui sont isolés, qui ont peur de parler.
Parce que c'est un tabou, il faut le dire, hein, on parle de ces deux maladies-là en particulier.
C'est un réel tabou. Il y a beaucoup de malades qui n'osent pas en parler. Dans leur famille, en fait, c'est compliqué parce que on a l'impression, en fait, d'être un petit peu un boulet, parce que il faut toujours s'adapter à notre quotidien, qui est un quotidien de douleur. Il faut prévoir sans cesse le petit plus qui va nous permettre d'être bien, que ce soit au cours d'un dîner, que ce soit pour les vacances. Il y a beaucoup de choses qu'il faut adapter, comme par exemple aller au ski, ce qui paraît quelque chose de normal pour les personnes en bonne santé, mais qui ne l'est pas pour un patient drépanocytaire.
Antoinette, expliquez-nous justement, expliquez de façon simple ce qu'est la drépanocytose.
Alors la drépanocytose, c'est la première maladie génétique en France et une des premières dans le monde. Donc en fait, chez le sujet non atteint, les globules rouges sont ronds, tout simplement. Et chez le sujet malade, qu'on va appeler SS en langage médical, les fossiles, en fait, les ronds vont se transformer en forme de fossiles. Donc
Ils vont se déformer.
Mmh. Et du coup, en fait, ça va venir bloquer les vaisseaux dans la circulation sanguine, ce qui va provoquer en fait des crises douloureuses qu'on appelle CVO. Et bien souvent, malheureusement, lorsque ça arrive, il faut se rendre à l'hôpital, donc aux urgences, tellement les douleurs sont intenses, pour que le patient puisse bénéficier d'une prise en charge optimale. Généralement, on a au moins toujours de la morphine pour calmer ces douleurs qui ne passent pas à la maison et qui sont tout simplement intenables. Donc voilà, le quotidien, c'est vraiment... De pouvoir faire attention à ce taux de globules rouges.
Donc vous le surveillez à travers des analyses sanguines,
à travers des analyses
quotidiennes, hebdomadaires, à quelle fréquence?
Ça va dépendre du patient, parce qu'il y a autant de drépanocytose que de drépanocytaires. Pour ma part, par exemple, c'est toutes les deux semaines que j'ai cette surveillance. Pour d'autres patients qui vivent avec une drépanocytose un peu moins forte, ça peut être tous les 3 mois, tous les 6 mois.
Donc ça varie.
Ça va vraiment dépendre, voilà, en fonction du malade.
Andrea, même question. On entend VIH/SIDA. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qui distingue ces deux mots? Essayons de vulgariser aujourd'hui ces termes.
Oui, parce que les gens ne font pas vraiment la différence entre le VIH et le SIDA, parce qu'on parle, tout le temps de SIDA, alors que ça commence d'abord par le VIH. Le VIH, c'est le virus, en fait, qui donne le SIDA à arriver à certains stades de la maladie. C'est-à-dire que quand on a le VIH, il y a plusieurs stades. Il y a le premier stade, on appelle la primo-infection, où la personne, en fait, qui vient d'être contaminée, présente des symptômes un peu lambda, comme on peut dire, enfin un symptôme comme toute autre personne peut l'avoir, des maux de tête, un peu de température, de fièvre, un petit peu de diarrhée, voilà, et ce pendant quelques mois. Ensuite, on a la deuxième phase qui est la phase asymptomatique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, il n'y a plus rien. On vit notre vie tranquillement, sans aucun symptôme. Mais le virus continue de faire son bout de chemin. Et après, on a la troisième phase, en fait, où on commence à vraiment ressentir les symptômes, en fait, du SIDA. C'est-à-dire, on commence à maigrir À vue d'œil, on maigrit. C'est des diarrhées chroniques, des boutons qui apparaissent sur le corps qu'on appelle zona. Et à ce stade-là, le virus, il a vraiment, vraiment évolué et il va vers le stade SIDA. Et
SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise.
Voilà, exactement. Et en dernière phase, le stade SIDA, où bon, on n'a plus assez de défense immunitaire. En fait, le virus, il a vraiment éliminé assez de nos défenses, nos globules blancs. Et finalement, le corps ne peut plus se défendre contre n'importe quelle maladie. Donc, un simple palu peut nous emporter, en fait. Mmh. Donc, à ce stade-là qu'on dit SIDA.
Qu'on dit SIDA. Alors, on va entrer plus en détail dans ces pathologies, juste avant vos témoignages autour de vos vies. Direction le Cameroun, d'abord. Je vous propose d'écouter le récit émouvant de la famille de Junior Essola Owundi. Cet adolescent est atteint d'une tumeur au cerveau. Sa famille joue un rôle majeur dans son processus de guérison. Reportage de notre correspondant sur place, Charles-Joël Thierry.
C'est un enfant plein de vie, hein, plein de vie. Très intelligent, très bavard. À le voir dans cette situation aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle est la peine, ce que je peux vous dire, la peine que j'ai rendue tous les jours.
T'es une personne vraiment vivante, joyeuse et un jeune engagé dans beaucoup de choses.
Ces témoignages sont ceux d'un père et d'un oncle au bord des larmes. Nous sommes au quartier Acacia, dans le 6e arrondissement de Yaoundé. C'est ici que vit la famille Owundi. Depuis bientôt un an, Junior, le 4e de la fratrie des 6 enfants de la maisonnée, vit alité. Seul son déplacement une fois par semaine et sous assistance vers l'hôpital général de la capitale camerounaise brise la monotonie de ce casanier qui, il y a peu, perdait l'usage de ses membres supérieurs et inférieurs, ainsi que la vue, et s'alimentait grâce à une sonde nasale à seulement 15 ans.
Un beau matin, il est rentré, il a dit qu'il faisait de la fièvre. On a essayé de lui donner quelques comprimés pour voir si ça allait. Le matin, ça n'allait toujours pas. On l'a amené à l'hôpital, on a fait une transfusion, on a donné quelques injections. Le lendemain, ça a commencé à aller, il est reparti à l'école. Aujourd'hui, il est rentré, il dit qu'il a mal aux yeux. C'est le début de toute la maladie, quoi. Il commence à dire qu'il a mal aux yeux, il ne voit pas bien. Et dans le mal des yeux, parce qu'il disait qu'il a mal à la tête, après mal des yeux, ça lui faisait maintenant, il avait le sérieux mal de tête.
Tout commence en février 2021. Alors âgé de 14 ans, il est rendu en classe de 3e, les premiers signaux de la tumeur dont il souffre aujourd'hui commencent à se manifester. Débutent alors des séjours fréquents dans les structures hospitalières de Yaoundé.
On a pris ça au sérieux, on l'a donc amené au centre des urgences, pour savoir en fait de quoi il souffrait. Je veux dire, presque tous on a fait tous les examens possibles qu'on peut demander. On va faire cet examen qu'on appelle l'examen du fond d'œil, qui a révélé qu'il avait un des œdèmes sur le nerf, je crois, le nerf optique.
Le diagnostic ainsi posé, quelques temps plus tard, relève qu'il est atteint d'une tumeur bénigne au cerveau. Le traitement du mal dont il souffre nécessite alors une double intervention chirurgicale à l'effet d'installer dans un premier temps un drain et par la suite extirper la tumeur en elle-même.
Les résultats du scanner ont effectivement démontré ce qu'elle redoutait, c'était une tumeur au cerveau. Il a donc été opéré 2 fois de suite. La première fois, c'était, ils ont dit, pour implanter un tuyau. 3 semaines plus tard, il a donc eu la deuxième intervention. Ils ont dit qu'ils ont pu enlever la tumeur.
À la sortie de l'hôpital, l'amélioration n'est pas immédiate. S'en suivent néanmoins les premières manifestations de santé.
Quand il a ouvert les yeux, on croyait qu'il voyait, mais il ne voyait pas. Il était couché, il ne bougeait pas, il a ouvert les yeux. Après avoir ouvert les yeux, il a commencé à bouger le bras gauche.
Malgré cela, c'est financièrement essoufflé que la famille de Junior sort de cette épreuve difficile. L'ensemble des dépenses effectuées pour ses soins s'élève jusqu'ici à plus de 10 millions de francs CFA. Une forte fortune pour ses proches. Heureusement, ceux-ci, avec l'aide des amis, ont su se montrer compatissants.
Pour sortir de cette situation, c'est incroyable ce que Dieu fait. Vraiment, c'est là où j'ai su l'importance de ce qu'on appelle la famille. Tout le monde a donné d'ici. 50 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000, 100 000, des millions. Des gens ont donné de l'argent.
Une implication familiale qui s'illustre aussi par la garde quotidienne de son oncle Séverin Oyono. Ce dernier s'attelle depuis les premières heures de l'hospitalisation de son neveu à être à son chevet. Un engagement ayant un impact positif sur le rétablissement du jeune malade.
C'est vraiment la solidarité familiale. Enfin, il y a telle personne qui se propose de gérer. L'autre semaine, il y a l'autre qui se propose de gérer.
Les conseils des spécialistes du domaine sanitaire sont jusqu'ici le principal leitmotiv. Selon ces derniers, la santé de Junior dépendra grandement de son bon suivi en communauté. Malgré les améliorations palpables qu'il présente, Séverin Oyono reconnaît néanmoins que son neveu a socialement beaucoup perdu.
Il a beaucoup perdu, hein, parce que la joie de vivre de cet enfant est débordante. Ce qui nous motive, c'est parce que la volonté dont il dégage fait en sorte que non, il faut l'aider.
Antoinette, peut-être une réaction, je vous ai vu de nombreuses fois réagir durant l'écoute de ce reportage.
Très émouvant le témoignage. Très émouvant, d'autant plus que le malade vient du Cameroun.
Junior.
Qui est pays d'origine. Donc ça me touche d'autant plus. Parce que j'imagine comme si ça pouvait être un frère ou un cousin à moi, en fait, qui souffrait de cette tumeur. Je me retrouve un petit peu dans le témoignage, dans la mesure où je comprends que la famille a joué un rôle très important dans sa guérison, dans ses soins au quotidien, pour soulager et Junior et ses parents, financièrement et aussi au niveau du temps. Le temps, de toute façon, quoi qu'il en soit, on peut pas le remplacer. Une fois qu'il est parti, il est parti. Et je pense que quand on est malade, c'est la chose la plus importante qu'on puisse nous accorder. Je suis ravie, en fait, qu'il ait pu avoir, malgré les difficultés, toute cette aide. Ravie aussi de voir que, contrairement à des idées reçues, on est capable de soigner aussi dans nos pays d'Afrique. Et voilà, l'hôpital central de Yaoundé, je suis allée déjà là-bas rendre visite à des patients drépanocytaires. Donc voilà, c'est comme si j'avais eu un espèce de flashback en écoutant
le témoignage
l'histoire.
De Junior. En parlant de famille, vous, comment font-ils face à la maladie? Vous avez une jeune petite fille et un mari.
Effectivement, je suis mariée depuis 5 ans et j'ai une petite fille qui a 4 ans. 4
Est-ce qu'elle est drépanocytaire?
Non, alors elle est porte saine. Donc pour être atteint de la drépanocytose, il faut en fait soit deux porteurs sains, donc ils sont AS de part et d'autre, donc la femme et le mari. Ou alors une personne qui est porte saine et une personne SS, donc qui est malade. Voilà, grâce à son papa, elle est AS. On a fait le test pour la drépanocytose avant le mariage avec son papa. Et du coup, on savait en fait qu'elle allait être AS. Diagnostic qui a été confirmé quelques temps après sa naissance par rapport aux tests
qui
sont
effectués. Aux tests de Guthrie, oui.
Exactement.
En France, voilà. Ce sont des tests pour détecter les maladies rares, 5 maladies rares identifiées, dont la drépanocytose.
C'est une petite fille pleine de vie. C'est vraiment un bout en train. Maintenant, la maladie au quotidien, c'est lourd pour la famille, pour l'entourage. Pour mon mari qui, du coup, lors de mes séjours répétés à l'hôpital, devait du coup porter tout le foyer à bout de bras, donc s'occuper de la petite du matin jusqu'au soir. Ça faisait des très très longues journées à un moment parce que il allait travailler, la petite était gardée par une assistante maternelle. C'était souvent des heures supplémentaires pour l'assistante maternelle qui nous a aidés, comme si c'était quelqu'un quelqu'un de notre famille, donc ça nous a beaucoup soulagés. Il y a les visites à l'hôpital aussi qu'il faut conjuguer avec l'enfant. Donc dans les services adultes, c'est pas conseillé en fait que les enfants en bas âge.
Ah oui, souvent c'est
interdit. Que les enfants en bas âge puissent venir. Étant très malade, j'ai eu la chance dans l'hôpital où j'ai été suivie d'avoir l'autorisation d'avoir ma fille en chambre parce que j'étais en chambre seule. Mais c'est
donc
compliqué.
Donc elle voit la maladie depuis qu'elle est...
Depuis qu'elle est toute petite, hein, en fait. Donc même dans le ventre, j'ai eu des crises durant ma grossesse. Elle les a un peu vécues avec moi parce que je devais prendre des antalgiques. J'ai été opérée pendant la grossesse. Donc elle a été endormie.
Une grossesse qui a été difficile à cause de cette maladie
ou... Tout à fait. Oui. Ça a été difficile à cause de la maladie. Mais elle a été très bien suivie grâce à l'hôpital Necker qui
L'hôpital des enfants malades à Paris.
Tout à fait.
Andrea, je vais vous laisser réagir aussi sur ce témoignage. Et d'ailleurs, je rebondis peut-être sur l'histoire de la transmission avec vos trois enfants. Est-ce qu'ils sont atteints du virus, vous ?
Mes trois enfants sont séronégatifs. Mmh. Voilà, elles ont eu un traitement antirétroviral à la naissance pendant 2 semaines. Et ensuite, des suivis, c'est-à-dire des prises de sang à la naissance également, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, et ensuite à 18 mois ou 2 ans, ça dépend.
Donc pour l'instant, aucune alarme à ce niveau-là, elles vont rester séronégatives.
Oui, exactement.
D'accord. Alors on en revient à la question de l'entourage, des proches qui deviennent parfois même aidants, on va peut-être en reparler dans quelques instants. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Qu'est-ce que vous voulez nous dire après l'écoute de ce témoignage de Junior et de l'implication familiale, de l'importance de la famille, cette magnifique solidarité familiale qui joue beaucoup sur la guérison ?
Oui, l'entourage joue énormément sur la guérison parce que je pense que s'il n'avait pas eu sa famille, il aurait abandonné parce que le mental est primordial pour guérir. Et pour ma part, j'ai été vraiment entourée. Mes proches ont très bien réagi. Bon, après, il y a eu des pleurs, il y a d'autres qui n'ont pas pleuré et tout, mais leur comportement n'a pas changé en fait, vis-à-vis de moi. Il n'y a pas eu de peur, je n'ai pas ressenti en fait... qu'ils me regardaient comme une personne séropositive, non, ils me regardaient comme la Andrea qu'ils ont toujours connue. Même mes amis, elles boivent dans le même verre que moi. Il n'y a pas ce sentiment de peur, en tout cas. Et ma mère a été d'un soutien énorme. Et ma sœur également, elle m'appelait tous les jours pour savoir comment j'allais. Et c'est vrai que je devais rester forte, au fait, pour elles, parce que je savais qu'elles étaient aussi atteintes psychologiquement. Parce qu'elles étaient, je pense, plus stressées que moi. Elles avaient peur pour mon avenir et elles pensaient qu'il me restait pas assez d'années à vivre. Et donc, je restais forte aussi pour qu'elles ne s'inquiètent pas trop. Mais c'est un soutien qui m'a énormément aidée. Je pense que si j'avais été rejetée par mes proches, je ne serais pas là aujourd'hui. Peut-être que je ne serais même pas sur cette terre, hein, parce que c'est très dur de vivre ça tout seul.
Absolument, on va continuer d'en parler. C'est justement la raison pour laquelle on donne le micro aujourd'hui à vous deux, de braves femmes qui osent témoigner. On va continuer de parler de cela juste avant. On écoute Pompi, No Willy. Day for Juletina, Polani Naiti, Lelo Tulewina. Cause my God is mighty, from lions to Philistines to Pharaoh with his schemes. Yes, I've seen. My God is ever late, not quatali kechi. Yes, we know. Imi bombele akweta ya filwapo. He secured the trophy before you even know that there is a trophy to be won. Mulibola na le saebe, bebe noele, bebe noele, bebe noele. Bola na le saebe, bebe noele, bebe noele, bebe noele. Them trust in chariots, them trust in horses. That's not my heritage, and history records it. I know who I am. And whose I am.
from the line of Abraham. And the so-called barren wife, but Ebola ni 90. A winner like Esther and Mordecai. Haman is asking for overtime. Elevated to a better grind. But a tough few type of better shine. Smite them, there is no referee. Power or principality that can overwrite the plans he has for me. Muli bola na le saebe. Bebe noele. Bebe noele. Bebe noele. Bola na le saebe. Bebe noele. Bebe noele. Bebe noele. The last shall be first. Bola ni 90. You're not married yet, Iwe Bola ni 90. Don't question your beauty, Bola ni 90. Thou shall Iwe Bola ni 90. The last shall be first, Bola ni 90. Not promoted yet, Iwe Bola ni 90. Don't question your God, Bola ni 90. Thou shall Iwe Bola ni 90. Muli Bola na le saebe. Bebe noele. Bebe noele. Bebe noele. Bola na le saebe. Bebe noele. Bebe noele. Bebe noele. Muli Bola na le saebe. Bebe noele. Bebe noele. Bebe noele, Bola na le saebe. Bebe noele, Bebe noele, Bebe noele.
Alors on dit quoi?
Vous écoutez Alors on dit quoi sur RFI. Nous parlons aujourd'hui de la maladie, de maladie chronique. Le quotidien des patients n'est pas forcément facile à vivre au jour le jour. Antoinette Onomo, vous êtes, vous, drépanocytaire. Cette pathologie a été détectée à vos 4 ans. Comment se manifestent les crises de la maladie?
Les crises, de façon générale, elles sont liées vraiment à la destruction des globules rouges qui ont une durée de vie inférieure à celle d'un sujet non malade, donc sain. C'est-à-dire que les globules rouges chez le patient drépanocytaire, il va avoir une durée de vie de 20 jours, tandis qu'il en a une durée de vie de 90 jours environ chez une personne saine. Du coup, ce qui peut déclencher les crises, les facteurs pour déclencher une crise, c'est un changement de temps brutal. C'est le froid. Donc, en général, les drépanocytaires et l'hiver, c'est vraiment pas du tout ça. Ça peut être de très fortes chaleurs.
Donc le climat joue beaucoup finalement, chaud et froid on va dire.
Tout à fait, le climat joue beaucoup. Après ça peut être aussi lié à du stress, des examens, je sais pas, la peur de rater les cours parce qu'on a des douleurs ou autre. Après, des fois, il y a des crises qui arrivent sans qu'on arrive à trouver un facteur déclenchant.
Est-ce qu'il y a un traitement quotidien que vous prenez? Tout à l'heure, vous parliez de traitement lors de douleurs, lors de ces poussées de crise. Est-ce qu'il y a un médicament que vous prenez pour anticiper peut-être ces douleurs?
Alors, il y a un traitement de fond qui s'appelle le Cyclos pour les adultes aujourd'hui. Il est également disponible pour les enfants. C'est de l'hydroxurée en fait, et cette molécule là va permettre d'augmenter un petit peu le taux d'hémoglobine, ce qui va permettre de normalement, si ça fonctionne bien et si la posologie est adaptée, ça va permettre en fait de faire moins de crises, donc de réduire les crises, voire même chez certains réduire l'intensité en fait de ces crises. Donc ça, c'est un traitement de fond qui va venir être associé à des antidouleurs de différents paliers. Donc on peut avoir de l'efferalgan simple, mais ça, c'est très, très peu classique, parce qu'en général, les douleurs nécessitent des antalgiques un peu plus forts. On peut avoir des médicaments de niveau 2, donc typiquement du dafalgan-codéiné, des choses comme ça, et monter même parfois avec de la morphine par voie orale en gélule pour les patients très douloureux et qui sont très sujets aux crises.
Vous, justement, vos crises étaient douloureuses et récurrentes, extrêmement récurrentes. Il y a un autre traitement dont vous avez bénéficié, c'est la greffe de moelle osseuse.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne guérit pas vraiment de la drépanocytose en dehors de ce traitement qui est la greffe de moelle osseuse. Donc c'est très lourd. C'est un traitement qui est proposé pour les patients graves. Et pour bénéficier de cette greffe de moelle osseuse, il faut avoir la chance d'avoir un donneur compatible.
Ce qui a été le cas pour vous,
tout
votre
à fait.
Frère.
Oui, c'est mon petit frère qui a été mon donneur. La greffe s'est déroulée au début de cette année, en janvier. Et il faut savoir que à la base, en fait, les greffes de moelle osseuse sont faites sur des patients qui sont 100% compatibles avec la personne de leur fratrie. Aujourd'hui, grâce à l'avancée de la science et à la recherche, on arrive à faire des greffes semi-compatibles, ce qui a été mon cas.
Et vous voyez une amélioration après cette greffe, quasiment un an après cette greffe ?
Tout à fait. Alors, ça a été la greffe un succès, en tout cas, en termes de résultats. Il n'y a plus d'hémoglobine S dans mon corps, donc plus d'hémoglobine malade. C'est une réussite par rapport à ça. On attend quand même le 2 février pour fêter...
Les un an de
tout
cette
à fait. Et que les médecins disent, ça y est, c'est bon, vous êtes guéri.
Et l'opération, pardonnez-moi Antoinette, a eu lieu dans un contexte sanitaire extrêmement difficile. On vit encore cette crise, on subit encore les effets de cette crise Covid. Quels ont été les impacts ? Est-ce qu'il y a eu un dispositif précis ? Parce que justement, vous avez un système immunitaire très fragile.
Tout à fait. La greffe, étant donné qu'il y a une chimiothérapie qui est mise en place pour détruire toutes les cellules malades. Déjà, on est dans un cadre très protégé sur la greffe. Donc, c'est un secteur hautement protégé avec une chambre qui permet en fait de gérer les flux d'air pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de microbes, de virus pour le patient. Avec le Covid, déjà, la greffe a été reportée à deux reprises parce qu'il n'y avait pas de place en réanimation de disponible, pas suffisamment en tout cas, pour permettre aux médecins d'initier la greffe sans trop de crainte.
Ça vous a frustré, découragé, ces annonces-là de repousse, alors que c'est une étape importante de votre traitement ?
Ça a été très dur, d'autant plus que moi, je faisais des crises tous les mois, donc c'était très compliqué. Et en fait, je me demandais si j'allais vraiment bénéficier de cette crise. C'est finalement arrivé début d'année, en janvier. Je suis rentrée à l'hôpital à peu près le 20 janvier. Par contre, concernant les visites, c'était limité à une visite par jour.
Vous voyez donc, votre fille à cette époque-là, difficilement.
J'ai pu voir ma fille la première semaine, lorsque j'ai commencé la chimio. Mmh. Et ensuite, une fois que j'ai été dans la phase d'aplasie, on n'a plus en fait de système immunitaire. Là, c'était impossible de la voir. Je n'avais pas le droit de sortir de la chambre. Donc, j'étais vraiment enfermée dans cette chambre, dans cette petite bulle. Ça a été très compliqué. En revanche, toute ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis proches ont pu venir me rendre visite et s'organiser pour qu'il n'y ait pas une journée que je passe toute seule.
Et aujourd'hui, du coup, après cette greffe, est-ce qu'il y a toujours ces poussées mensuelles dont vous parliez tout à l'heure ?
Alors, plus du tout. J'ai plus de douleurs de crise. Là, il pleut. J'étais pas stressée par le fait de pouvoir avoir une crise qui allait se déclencher. Ça va beaucoup mieux. Seulement, étant immunodéprimée encore, j'ai la facilité d'avoir des infections. Donc, avec tous
et
les
vous
petits
restez
virus,
quand même très attentive et très
fait,
vigilante.
Tout à fait, très vigilante à tout ça. On limite les sorties. Même pour ma fille, ça, c'est assez contraignant. Au final, elle ne peut pas faire tout ce que les enfants de son âge font parce qu'il faut quand même toujours continuer à me protéger.
Comme quoi, par exemple ? Quelle activité elle a dû arrêter?
Alors déjà, elle a dû être déscolarisée le temps que j'entends greffe. Donc elle a fait sa rentrée de septembre et la première greffe était prévue pour le mois d'octobre. Et en fait, tant que je ne pouvais pas rentrer en greffe, elle ne pouvait pas reprendre l'école. Du coup, de octobre à début février, quand mon petit frère est rentré à l'hôpital pour le don, elle n'a pas été à l'école. Donc ça a été très dur pour elle de voir en fait les petits aller à l'école, parce que l'école est juste au pied de chez nous. Donc elle voyait que les autres enfants allaient à l'école. Elle savait qu'il y avait le coronavirus, elle savait que je rentrais en greffe et ce que ça impliquait. Mais ça a été frustrant, je pense, pour elle d'être déscolarisée. Elle ne peut pas aller au parc quand il y a trop de monde, parce que je ne peux pas m'exposer avec trop d'affluence à un seul et même endroit. Ça a été beaucoup de contraintes. Elle ne pouvait plus voir ses cousins, cousines, parce qu'eux étaient scolarisés ou en milieu de crèche, donc impossible de se mélanger à eux de peur que elle n'attrape le Covid ou un virus qui ferait que ça allait me sensibiliser moi et que ça pouvait du coup annuler ou impacter la greffe. Donc ça a été dur.
Difficile, j'imagine. Andrea, vous avez entendu le témoignage d'Antoinette. Alors vous n'êtes pas atteinte de la même maladie, mais est-ce que vous ressentez certaines similitudes avec ce qu'elle vient de nous expliquer?
Moi, c'était pas le côté parce que je partais pas à l'hôpital, enfin j'étais pas hospitalisée, etc. Mais au début, c'était vraiment le côté psychologique qui impactait mes proches, parce qu'étant donné que déjà ils savaient que je n'allais pas bien, ils avaient peur, ils avaient vraiment peur pour moi, ils s'inquiétaient, il y avait vraiment beaucoup d'inquiétude de se dire est-ce que j'aurai un avenir au fait, parce que pour eux, bon, à 22 ans, quand on apprend qu'on est séropositif, ta vie, elle est un peu gâchée.
Ouais, on a cette phrase dure que vous répétez souvent dans les réseaux sociaux. Votre père vous a dit « Ta vie est foutue, Andrea, tu ne te marieras pas, tu n'auras pas d'enfant, tu ne trouveras pas de travail, ta vie est foutue.
» Exactement, parce que c'est un peu les réalités, en fait, en Afrique. Mm-hmm. Quand tu es séropositive, quand tu le dis en tout cas, ce sont les réalités. Pour trouver un homme, c'est vraiment très difficile.
Pour trouver du travail. Et finalement, vous avez prouvé totalement le contraire, puisque vous vous êtes mariée quelques temps après.
Exactement, et c'est vite arrivé en plus.
Andrea a 22 ans, donc en avril 2014, le diagnostic tombe. Vous parliez d'une détresse psychologique qui vous pousse en septembre à une tentative de suicide. Que s'est-il passé?
En fait, je me suis accrochée à la relation que j'avais quand j'ai découvert ma séropositivité, parce que pour moi, voilà, j'avais trouvé quelqu'un, et donc ça y est, c'est bon. S'il est resté avec moi, c'est qu'il compte m'épouser, quoi. Voilà, pour moi, c'était ça. Et donc, je me suis vraiment accrochée à ça pour ne pas rester toute seule, en fait. Voilà, j'avais vraiment cette peur de rester toute seule. Et finalement, c'était une relation destructrice qui, à la fin, s'est terminée par un rejet. Et j'ai compris, en fait, que c'était le VIH, finalement.
D'ailleurs, Andrea, est-ce que vous savez comment vous avez contracté la maladie?
Non, c'est une question, en fait, qui revient souvent. Et justement, que je n'ai pas trouvé, en fait, la réponse, parce que c'est la première fois, déjà, que je faisais mon test sérologique. Donc, je ne peux pas vraiment dater si avant j'étais négative ou pas. Mais le médecin j'avais vu un médecin qui me suivait et qui pensait que le virus datait au moins de 10 ans. À l'époque, j'avais 12 ans. Donc voilà.
Donc on sait pas trop finalement. Voilà, c'est encore. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire le test alors?
C'est le copain que j'avais à l'époque. En fait, lui, il faisait son test. Avant de démarrer une nouvelle relation, en fait. Et donc, c'est lui qui m'a suggéré de faire mon test. Et bon, moi, j'ai pas trouvé d'inconvénient. Bon, je l'avais jamais fait, mais bon, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Parce que pour moi, de toute façon, ça allait sortir négatif. Voilà.
Et donc, et finalement, non. Et vous nous avez expliqué les stades de la maladie tout à l'heure. 1, 2, 3. Vous en étiez où lors de votre diagnostic, Andrea?
Maman, je rentrais en stade 4, pardon, parce que le stade 4, on définit comme vous avez moins de 200 CD4 dans le corps. Donc moi, j'étais à moins de 200 CD4. Donc j'étais au début du stade 4.
Vous aviez le sida, là, c'était au stade sida.
Exactement.
Donc plus de défense immunitaire.
En tout cas, pas assez.
Pas suffisamment, en tout cas.
Pas suffisamment.
Andrea, aujourd'hui, le traitement est très efficace. Le virus est indétectable. Mais vous prenez un traitement, du coup, antirétroviral, c'est ça?
Exactement.
Alors, comment se passe la prise? Et puis, surtout, expliquez-nous s'il y a des effets sur votre quotidien.
Mais les traitements, je les prends chaque soir, tous les jours. J'étais à 3 comprimés jusqu'à 2 mois, là, je crois 2 ou 3 mois, que je suis passée maintenant à 1 comprimé.
Pourquoi? Parce que la maladie ne se manifeste plus? Pourquoi? Comment on ajuste le traitement?
Non, c'est parce que je ne veux plus avoir d'enfant. C'est-à-dire mon traitement que j'avais, en fait, les 3 comprimés, ils étaient compatibles pendant la grossesse. Il n'y avait pas besoin de changer de traitement, étant donné qu'il m'allait. Le médecin ne voulait pas changer mon traitement. Mm-hmm. Et comme je lui ai dit, bah, c'est bon, je veux plus d'enfant, donc on est passé à un comprimé qui n'est pas compatible pendant la grossesse, par contre. Faudrait, si je prends une autre grossesse, voilà.
Est-ce qu'ils ont des effets sur votre quotidien?
Exactement. Et c'est un peu ça, le souci, c'est que j'ai remarqué, justement, au fur et à mesure, des changements, en fait, sur mon quotidien, comme la perte de mémoire instantanée. Je ne me rappelle pas de ce qu'on vient de me dire, d'un événement qui se passe à l'instant, c'est-à-dire une heure plus tard, je ne me rappelle de presque rien. Je perds même les mots, en fait, je veux dire quelque chose et bam, je ne me rappelle plus. Au début, je me suis dit, bon, peut-être que je perds un peu la boule, je ne sais pas. Et je me suis rendu compte que bah, ça s'aggravait au fil des années. Et j'ai essayé de regarder bah, les effets secondaires, bah, justement, des médicaments que je prenais. Et bah, c'était écrit noir sur blanc, perte de mémoire. Donc voilà, je n'ai pas inventé. Et aussi, il y avait de la prise de poids. Dès que j'ai commencé mon traitement, j'ai pris 5 kilos en même pas 2 mois. Mm-hmm. Et bah aujourd'hui, c'est un peu stagné, mais c'est vrai que y a ça aussi qui est quand même, je ne vais pas dire handicapant, mais on voit son corps changer, en fait. On se voit changer à cause du traitement. Mmh. Et y a aussi la sécheresse de la peau vraiment très, très accentuée. Mmh. La peau, voilà, devient de plus en plus sèche. Et y a aussi la baisse de libido. Mmh. Que les médicaments aussi créent, donc le quotidien aussi, c'est pas facile.
Oui, justement, d'ailleurs, qu'est-ce qui change lorsqu'on est en couple avec une personne séropositive? Enfin, je dirais peut-être même une personne séronégative du point de vue justement de votre mari.
Il voit pas trop de différence, il y en a presque pas, parce que on peut avoir des rapports non protégés, faire des enfants naturellement.
Et comment ça se fait alors? Parce que vous ne transmettez plus le virus, c'est ça?
Exactement, je suis indétectable grâce au traitement et donc je ne transmets plus le virus. Donc on a des rapports non protégés et finalement le quotidien il n'est pas différent en fait d'une.
Mais vous en parlez d'ailleurs du VIH? Est-ce que vous en parlez d'ailleurs?
On en parle presque jamais. On en parle un petit peu, mais vraiment de rares fois. Au jour d'aujourd'hui, on en parle un peu plus par rapport au fait que bah, je l'ai dit publiquement. Et donc, voilà,
oui, vous menez une grosse campagne de sensibilisation autour de cette pathologie.
Exactement. Donc on en parle un petit peu plus. Mmh.
Antoinette, on parle de sensibilisation, justement, ce qui me permet de rebondir autour de l'application Drépacare. Tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez une utilisatrice de cette application. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Expliquez-nous un petit peu dans le détail ce qu'elle permet aux patients atteints de cette pathologie.
Drépacare, déjà, ce que moi j'aime dans le projet, c'est que c'est une application créée pour les drépanocytaires et par des drépanocytaires. Donc ça, c'est très important parce que qui de mieux que des patients ne peuvent savoir en fait quels sont nos besoins, quelle est la réalité de la vie avec la maladie. Aujourd'hui, l'application Drépacare permet vraiment, en fait, c'est un espèce de journal, moi je l'appelle un peu le journal intime, mon carnet de route, parce que l'application en fait a vocation à informer, à sensibiliser.
Donc nous-mêmes, on peut la télécharger, les personnes qui ne sont pas atteintes de cette maladie.
Alors, en fait,
on découvre la maladie, peut-être, là, à ce moment-là, on peut trouver des informations intéressantes.
Ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand on est soit malade soi-même, soit qu'on est parent de malade, on peut, du coup, se créer ce profil et avoir accès en fait à toutes les fonctionnalités. Donc il y a des témoignages, il y a des conseils, il y a des règles d'or comme ne pas s'habiller trop serré, bien s'hydrater, etc. Au quotidien pour essayer de favoriser l'hydratation et donc c'est très important en fait pour les drépanocytaires de beaucoup boire. Donc on peut aller quantifier ça. L'application permet aussi d'aller noter la douleur. Donc par exemple aujourd'hui je vais mettre la date du jour, l'intensité de la douleur.
Donc ça permet un suivi.
J'avais mal. Tout à fait. Ça permet un suivi et on peut l'envoyer aux médecins. Et les médecins eux-mêmes, donc l'équipe pluridisciplinaire médicale peut du coup se créer aussi un profil
et avoir accès à toutes ces données médicales.
Et avoir accès à des données, voilà.
D'accord.
Et on peut, il y a aussi, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'il y a une carte digitale d'urgence qui permet une meilleure prise en charge. Par exemple, pour les personnes qui sont en crise, peut-être loin de chez elles, pour avoir en fait toutes les données,
toutes les données médicales.
Et surtout les données importantes, comme par exemple le groupe sanguin. C'est très important pour les drépanocytaires d'avoir des dons du sang réguliers. Ça nous permet de pouvoir mieux vivre avec par exemple le cyclose et c'est un réel complément. Et enfin,
le cyclose, c'est-à-dire
le cyclose, c'est le médicament, le traitement de fond.
Ah oui, dont on parlait
tout à l'heure.
D'accord, merci.
Et en fait, la transfusion, aussi un très bon traitement lors des crises ou alors en prévention des crises pour faire moins de
poussées.
Exactement.
Merci infiniment, Antoinette. Alors, Andrea, je vais vous laisser le mot de la fin. Il nous reste à peu près 30 secondes. J'ai très envie que nos auditeurs vous écoutent.
Avoir le VIH-Sida, ce n'est pas une fin en soi. Il faut avoir peur du VIH, qui est le virus, mais ne pas avoir peur des personnes séropositives, car ce sont des personnes comme toute autre personne que vous côtoyez au quotidien, que ce soit vos parents, vos amis, vos collègues, etc. Et donc, le VIH concerne tout le monde. On a l'impression que ça ne nous concerne pas, mais ça concerne tout le monde. Ça peut toucher n'importe qui, peu importe son âge, sa couleur de peau, son orientation sexuelle, son statut social. Donc, il faut faire attention. Il faut se faire dépister, si on le peut, chaque année. Et se protéger surtout.
Merci infiniment. Merci à vous. Merci pour votre sincérité, Andrea. Merci également à vous, Antoinette. Merci. Vraiment, ça a été un plaisir de vous entendre aujourd'hui dans cette émission. Il y a beaucoup de personnes atteintes d'une maladie chronique et qui n'ont pas de symptômes visibles. C'est votre cas. Leur gravité n'est parfois pas remarquable, ce qui peut susciter l'incompréhension, le manque de soutien des médecins, des proches, des collègues, de la famille. Voilà. Donc, à travers Alors on dit quoi aujourd'hui, j'ai vraiment tenu à sensibiliser tout le monde, nos amis, nos proches, pour qu'ils appréhendent mieux ces questions, ces conditions difficiles. Si les informations sont partagées, peut-être qu'elles permettront, en tout cas je l'espère, de renforcer les relations, de réduire l'incompréhension aussi et d'améliorer la prise en charge des malades chroniques. Merci à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci infiniment à toute l'équipe d'Alors on dit quoi, Jérémy, Beverly, Daba, Mariam, Guillaume, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Obnolha Gongol, à très bientôt. Infinity, 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 yo yo yo. She said make a put it in, make a put it in, put it in, no no no. She said till infinity, yo, infinity, infinity, yo, infinity, yo. She said make a put it in, make a put it in, put it in, put it in, no no no. She said till infinity, 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 yo yo yo. She said make a put it in, make a put it in, put it in, put it in, no no. She said till infinity, yo, infinity, infinity, yo, infinity, yo. She said make a put it in, make a put it in, put it in, put it in, no, no, no. Make I put firewood for the fire, beep, send you the wire. Now you a go ama and I no go retire. Bedroom voice be like say you dey for the choir. Do re mi so la ti do do mi lala. Cette année, le prix